Et bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Fréquence Mistral 96.6 FM et je suis ravie d'accueillir dans notre studio pour la suite des anniversaires notre historien géographe retraité, Jean Saramet. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous.
Comment allez-vous?
J'ai été crapahuté dans la neige au col du Granon. C'est peut-être plus de mon âge, alors j'ai la voix un peu chancelante. Pardon d'avance.
Bon, on va continuer avec les anniversaires et on va faire 59.
Oui, il y a 60 ans, je viens de voir le très beau livre sur les 60 ans du peloton de gendarmerie des Hautes Montagnes. Splendide, splendide et vraiment un coup de chapeau à toutes ces personnes qui mettent souvent leur vie en jeu pour en sauver d'autres. Vraiment bravo.
Oui, parce que vendredi prochain, c'est la grande fête.
Oui.
Ils vont même faire une démonstration en hélicoptère, plein de choses. Bon.
Alors, il y a 60 ans, les institutions de la Ve République commençaient à fonctionner en France. Donc, le président qui avait été élu par 80 000 grands électeurs était le général de Gaulle. Et il avait choisi comme premier ministre un fidèle politique, Michel Debré. Les mesures phares qui sont prises cette année-là, c'est le passage, et c'est toujours valable, de la scolarité obligatoire de 14 ans à 16 ans. Autrement, c'est la mise en place de l'épargne logement. C'est la dernière année de l'ancien franc, puisque on va enlever 2 zéros pour passer au 1er janvier 60 au nouveau franc.
Pourquoi ça a changé, les francs?
Eh oui, c'était, disons, une mesure de simplification pour enlever le trop grand nombre de zéros qu'il y avait. Donc, on a décidé qu'un nouveau franc, c'était peut-être un petit peu plus prestigieux pour le général de Gaulle. Donc, un nouveau franc valait 100 anciens francs. Mais ça ne changeait absolument rien, ni au prix, ni au salaire, etc. Quand on gagnait 100 000 francs, on a gagné 1 000 francs. Puis voilà. C'était comme une simplification.
Pas comme l'euro.
Là, ça a été un tout autre mécanisme.
Exactement.
Autrement, c'est l'inauguration du barrage de Serre-Ponçon. Et je me souviens, j'étais tout gamin, nos instituteurs d'un petit village du Var avaient fait un voyage de fin d'année pour aller visiter ce barrage de Serre-Ponçon. C'était passionnant. Et puis à la fin de l'année, toujours dans les barrages, c'est la catastrophe de Malpasset qui impacte avec 420 morts la ville de Fréjus.
Oui, qu'on connaît bien malheureusement
dans
ici.
Le Var. Au niveau européen, c'est l'indépendance de Chypre, qui jusque-là était sous domination britannique. Mais la Grande-Bretagne a gardé, elle les a toujours, je crois, 2 ports qui sont en même temps des bases navales et militaires. Et puis, la Sarre devient entièrement allemande, puisque après chacune des 2 guerres mondiales, le petit Land de la Sarre, à la limite de la Moselle, était passé sous administration tout au moins économique française. Et puis, alors, c'est bien oublié, il y a une votation, un référendum en Suisse, où les Suisses décident de ne pas donner le droit de vote aux femmes. Si bien que la Suisse sera quasiment le dernier pays en Europe, il faudra attendre encore une dizaine d'années, je crois, pour donner le droit de vote aux femmes.
Et c'était quoi les raisonnements derrière?
Les raisonnements traditionnels, comme quoi les femmes devaient rester à la maison et élever les enfants.
Et faire des gâteaux.
Pourquoi pas? Et qu'elles ne devaient pas s'occuper de politique, ni s'intéresser à ce domaine. Et oui, alors, il faut dire tout de même que les cantons francophones étaient très favorables. Et ce sont les cantons germanophones qui ont retardé. Mais ils sont majoritaires, puisque c'est 70% de la population. Dans le monde, Fidel Castro est au pouvoir à Cuba, mais c'est une période moins dramatique dans les relations internationales, période que l'on appelle le dégel. Nixon, qui est vice-président, se rend en Union soviétique, où il est très bien accueilli. Khrouchtchev se rend aux États-Unis, où il admire les progrès technologiques américains. Donc, les relations Est-Ouest, qui étaient jusque-là plutôt tendues, se détendent quelque peu, pas fondamentalement, bien sûr, mais quelque peu. Bon, que dire ? Qu'il y a une terrible famine, c'est la dernière grande famine de notre histoire en Chine, avec peut-être 10 à 20 millions de morts. Ce n'était pas connu en France, ni à l'Ouest, parce que la propagande chinoise, dirigée par Mao, faisait en sorte que les nouvelles peu favorables ne soient pas diffusées. Mais ça a été une horreur. Quelque chose qui est toujours valable, le traité de l'Antarctique. C'est important. Tous les pays du monde s'engagent à ne jamais installer d'armes sur le continent antarctique, qui reste un continent scientifique, disons. Autrement, au niveau des États-Unis, l'Alaska et Hawaï deviennent les 49e et 50e États des États-Unis, et pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Donc, 50 étoiles sur le drapeau à la fin de 1959. Au niveau scientifique, la sonde soviétique Lunik photographie pour la première fois la face cachée de la Lune. Et on comprend que la connaissance de la Lune devient un enjeu majeur entre les deux grands. Quelque chose que j'ai vu il y a 2 ans, qui est une réalisation splendide, qui est inaugurée en 59, c'est le Central Seaway, c'est-à-dire ce magnifique axe navigable à la frontière entre les États-Unis et le Canada, qui permet un débouché jusqu'à la mer, aux navires de gros tonnage, entre les grands lacs américains et le Golfe du Saint-Laurent et l'océan Atlantique. Autrement, au niveau des prouesses techniques, un avion-fusée américain dépasse les 3000 km/h. On installe pour la première fois un câble téléphonique entre les États-Unis et l'Europe. À l'heure des satellites, ça paraît évidemment quelque chose d'étonnant. Mais
c'était dans la mer, non ?
Oui. Ce sont des gros navires spécialisés qui déroulent ces câbles qui doivent descendre à plus de 4000 mètres, le fond de l'océan Atlantique. Autrement, pour sourire, et je m'en souviens, j'étais vraiment gamin, mais le hula hoop qui arrive des États-Unis fait que beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles vont avoir des problèmes de vertèbres lombaires parce que vraiment on se déhanche comme on peut pour faire tenir ce cercle en plastique. Mais c'était vraiment amusant. Et dans les cours de récréation, c'était une affaire majeure.
Et ça a revenu dans les années 80, parce que moi j'avais un.
Bon.
Que j'adorais, que j'étais très bien avec.
Au niveau sportif, le Tour de France, on l'a sûrement bien oublié, est gagné par Bahamontes, l'aigle de Tolède. C'est un magnifique coureur espagnol qui avait fait la différence, disons, dans l'école des Pyrénées. Au niveau spirituel, disons, mais pas seulement, le pape Jean XXIII déclenche le Concile Vatican II, sans savoir très bien sur ce quoi ça allait aboutir. C'était la volonté d'aggiornamento, comme on disait en Italie, c'est-à-dire de non pas moderniser, mais de faire en sorte que l'Église catholique s'adapte à la société du XXe siècle. Et ça allait donner des changements considérables qui seraient mis en œuvre par le pape suivant. Jean XXIII était très âgé, Paul VI.
Ils sont toujours âgés, hein.
Il
n'y a jamais eu un pape de 40 ans, par exemple.
Je pense que les cardinaux, qui sont eux-mêmes pas très jeunes, ne sont pas dans... disons que dans les... Au Moyen-Âge ou à la Renaissance, il pouvait y avoir des papes beaucoup plus jeunes. De toute façon, l'espérance de vie était bien moins élevée à l'époque. mais c'était pas la même logique. Autrement, eh bien, la Palme d'Or à Cannes et revient au film d'Albert Camus, Orfeo Negro, mais sont également remarqués des films qui vont rester dans les mémoires. La mort aux trousses d'Hitchcock, Certains l'aiment chaud de Billy Wilder, Hiroshima mon amour d'Alain René, et on est dans la nouvelle vague avec les 400 coups de Truffaut. Le prix Nobel de littérature revient au grand poète italien Salvatore Quasimodo, peut-être pas trop connu en France. Autrement, le romancier Blondin écrit un singe en hiver. On a trois nouveaux académiciens dont les noms sont connus, Marcel Achard, Jean Rostand le scientifique et Henri Troya. Marcel Pagnol écrit Le château de ma mère, qui sera porté à l'écran. Et dans la revue Pilote, ce sont les débuts d'Astérix.
Ah oui.
Voilà. Alors, les disparitions marquantes, disons, de l'année 1959. Le cinéaste Cécile B2000, Villa-Lobos, un immense compositeur de musique brésilien. Vraiment, quand on entend sa musique, on est transporté parce qu'il y a un mélange de classicisme et d'air traditionnel brésilien. C'est absolument magnifique. Autrement, c'est l'écrivain qualifié de régionaliste en France, Henri Poura, qui a beaucoup écrit sur l'Auvergne. C'est l'ancien militaire américain, mais qui a créé aussi le plan qui a porté son nom, George Marshall. Le géopolitologue français André Siegfried, l'écrivain Boris Vian, Gérard Philippe, le grand acteur, célèbre dans des pièces de théâtre où il mettait toute sa sensibilité en jeu, et aussi Félicien Marceau, sans oublier le dramaturge Chandler. Alors, quelques naissances célèbres. Eh bien, le judoka Thierry Ray. Dans le tennis, McEnroe. Dans le cinéma, Luc Besson. Victoria Abril. Patrick Bruel. Loïc Perron, dans un autre domaine. Marc Madiot, toujours dans un domaine voisin. Et puis, cette année-là, la presse People, comme on dit, maintenant fait rêver une partie de la planète avec deux mariages emblématiques, le Shah d'Iran avec Farah Diba et le roi Baudouin de Belgique avec la princesse calabraise Paola. Alors, qu'est-ce qui peut marquer au niveau de la chanson? J'ai choisi ce qui avait permis à la France d'obtenir le troisième prix à l'Eurovision. Jean-Philippe chante Oui, 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 oui.
Oui, 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 oui. Et on va l'écouter tout de suite. Donc, ça, c'est les années 59.
Voilà. Bah, comme je dis à chaque enregistrement, ce sont des choix évidemment incomplets et subjectifs. Je lis plusieurs ouvrages et je me pose la question qu'est-ce qui reste dans les mémoires et qu'est-ce qui peut avoir toujours un souvenir plus ou moins positif, à la fois dans l'histoire ou dans la vie.
Bon, on va l'écouter tout de suite, Jean-Philippe, avec Oui, oui, oui.
Oui, 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 oui. Nous ferons le tour du monde avec mon toit, ma jolie. Oui, 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 nous n'aurons plus pour amis que la brise vagabonde et le soleil de midi. Oui, 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 va mon bateau, va, danse ton mât, claque ta voile, va mon bateau, va, pour elle et moi, vogue là-bas. Oui, 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 oui. Choisis la plus belle escale et je t'offre un paradis. Oui, 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 oui. Veux-tu le ciel de Capri ou les palais de Bengale, ou le soleil d'Hawaï. Oui, 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 oui. Va, mon bateau, va, danse ton mât, plaque ta voile. Va, mon bateau, va, pour elle et moi. Oui, mais voilà, mon bateau est tout petit. Il dort dans une bouteille, et moi je rêve avec lui. Oui, 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 oui. Quand vient la nuit, nous partons découvrir mille merveilles dont je ne sais pas le nom. Non, 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 non. Va, mon bateau, va, danse ton mât, berce mon rêve. Va, mon bateau, va, pour elle et moi, vogue là-bas. Un jour, mon toi, ma jolie, m'emportera loin d'ici, dans un merveilleux pays. Oui, 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 oui.
Et voilà, Jean-Philippe avec oui, oui, oui. Bon, on va faire maintenant 69.
Et un demi-siècle, déjà.
Oh là là. Et un an après ma naissance.
Ah. Alors, en France, c'est la fin du pouvoir du général de Gaulle. Le général de Gaulle avait lancé un référendum avec un problème sur deux questions. Alors qu'en général, un référendum porte sur une seule question claire. Alors, si ça n'avait porté que sur la régionalisation des décisions de certaines institutions, ça ne posait aucun problème. Mais il y avait en même temps une quasi-disparition du Sénat. Or, justement, les maires, les conseils généraux et la droite française, qui était pourtant dans les soutiens traditionnels du général de Gaulle, était très attaché au Sénat. Le Sénat n'est pas élu au suffrage universel, c'est l'expression justement des communes et des pouvoirs locaux. Et cette quasi-disparition du Sénat a inquiété ce qui faisait la base de l'électorat du général de Gaulle, et le référendum a été négatif.
Et le référendum, c'est jamais une très bonne idée.
Oh là, oh là 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 là. De telle sorte que Gérald de Gaulle avait une conception qui n'était pas très constitutionnelle du référendum, mais elle était intéressante. Gérald de Gaulle disait « Élire un président pour 7 ans, c'est long. Donc, de temps en temps, je fais un référendum. Si c'est non, je m'en vais. » Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus le contrat de confiance entre le président et la population. Donc, le soir même, il démissionne. Alors, les institutions françaises, et c'est toujours valable, si un président est indisponible, soit trop malade, soit accidenté, soit il meurt, soit il démissionne, c'est le président du Sénat qui le remplace immédiatement, parce que il y a le problème du code nucléaire, il y a le problème de commandement des armées. Et là, c'est Alain Poher, qui est un homme de centre-droit. Et aux élections présidentielles, qui sont de toute façon cadrées par les institutions dans un temps assez court, le temps de faire une campagne, les élections présidentielles sont très originales parce qu'au deuxième tour, il y a deux candidats de droite. La gauche a disparu, peut-être le contre-coup de mai 68. Non. Donc c'est Georges Pompidou qui se présente comme l'héritier du gaullisme, mais très différent. Je pense surtout aux relations internationales. Le général de Gaulle avait interdit, tant qu'il serait au pouvoir, l'entrée du Royaume-Uni dans les institutions européennes. C'était un veto absolu de la part du général de Gaulle. Et Georges Pompidou fait très vite savoir qu'il y est très favorable et que les négociations vont commencer. Donc, ce n'était pas un héritage à 100% de la période gaulliste ou gaullienne. Et Georges Pompidou est élu, disons, facilement face à Alain Poher, qui était très sympathique, mais qui n'avait peut-être pas un programme aussi précis.
Mais c'est légal d'avoir droite contre droite.
Ah ben, c'est la règle constitutionnelle française. Ne reste au deuxième tour que les deux candidats ou candidates arrivés en tête.
D'accord.
Il pourrait y en avoir trois. Je ne sais pas si ça changerait le cours des choses, mais au fond, pourquoi pas. Alors, pourquoi ça avait été décidé par le général de Gaulle en 58? C'était pour que l'élu chef de l'exécutif soit légitime, c'est-à-dire en ne comptant que les suffrages exprimés, il faut qu'il y ait un élu qui ait plus de 50% des voix. Donc, vis-à-vis de la population et vis-à-vis du monde, ça lui donne une légitimité. Pour ça, il faut qu'il n'y en ait que deux. C'est purement technique, mais il y a d'autres pays où il peut rester trois candidats. Bon, aux États-Unis, il peut y avoir trois candidats, hein, c'est pas impossible. Mais, bon, ce sont les institutions françaises.
Exactement.
Il ne semble pas qu'on veuille les modifier dans ce sens. Et pourtant, pourquoi le ou la troisième personne ne pourrait pas, si elle le désire, concourir au deuxième tour? Bon, on peut rêver. Autrement, eh bien, Georges Pompidou prend comme premier ministre le maire de Bordeaux, qui est jeune, et Chaban-Delmas, et qui a en tête un programme de nouvelle société pour surmonter mai 68, qui est encore très récent. Voilà, autrement, Georges Pompidou va faire une dévaluation de 12,5% du franc, dévaluation surprise et réussie, qui va lui permettre de mettre en place une politique économique très dynamique qui va faire de la France un pays encore plus industriel. Et ce sera, disons, le grand succès de l'époque de la présidence de Georges Pompidou.
Donc, chômage en baisse.
Oui, le chômage était de toute façon, on est avant la crise de 1973, donc le chômage n'était pas une grande préoccupation à l'époque. Autrement, c'est le premier ordinateur 100% français de la compagnie C2I, on l'a sûrement oublié.
Ah oui, non mais ça je ne savais pas, le premier ordinateur
100% français, c'est C2I, oui.
Et vous avez eu un?
Non, c'était plutôt pour les entreprises, c'était d'accord, pas encore vraiment grand public, on est il y a 50 ans. Autrement, la messe du dimanche passe au samedi, c'est la modification liée à Vatican II pour essayer de garder les fidèles qui veulent partir en week-end.
Et c'est toujours comme ça?
Oui.
Ah oui, ça je savais pas.
Il y a une messe le dimanche, mais c'est la messe du samedi soir qui remplace la messe traditionnelle du dimanche, dans la religion catholique, bien sûr. C'est le premier vol du Concorde, franco-britannique.
Oh, comment c'était belle!
Ah, magnifique!
Oh, comme un grand oiseau.
Oui. Et c'est le deuxième sous-marin nucléaire français qui s'appelle le Terrible. Bon, dans le monde, c'est la suite de ce qu'on appelle la détente, mais on a bien oublié qu'il y avait en 69 une guerre entre l'Union soviétique et la Chine, avec plus de 3000 morts sur la frontière, sur le fleuve Oussouri. Et c'est évidemment troublant à l'époque parce que ce sont les deux pays phares du monde communiste qui se font une guerre certes limitée, mais ça peut paraître étonnant. En Europe, il y a des affrontements en Irlande du Nord. Willy Brandt devient chancelier de la République fédérale allemande et Franco, qui dirige l'Espagne, désigne, comme Franco devient fort âgé, désigne comme son successeur Juan Carlos de Borbón y Borbón. Et c'est une surprise que Franco décide d'une reprise dynastique.
Bah oui, parce que la famille Bourbon, c'est royal, non?
Disons que...
aristocrate.
Oui. Oui, certains imaginaient soit un franquiste pur et dur, ce que n'était absolument pas Juan Carlos, et ça a été quelque peu étonnant. Et ça a fonctionné, puisque à la mort de Franco en 75, puis à partir de 76, le roi met en place un régime tout à fait démocratique pour une Espagne qui sortait d'un long parcours dictatorial. Sur le plan scientifique et technologique, c'est la découverte du vaste, et il est toujours en fonctionnement, du vaste gisement de pétrole d'Alaska. C'est le premier bébé in vitro en Grande-Bretagne.
Déjà ?
Oui, in vitro, pas ce qui se passera à la fin des années 70. Et c'est quand même la date fondamentale dans l'histoire de l'humanité, le premier homme sur la Lune. En juillet 69, je me souviens avoir suivi toute la nuit sur une télévision en noir et blanc. On voyait très mal, mais bon.
Qu'est-ce qu'il a dit ? One step for mankind.
Un petit pas pour l'homme ou pour l'humanité, peut-être mieux dire l'humanité.
Tout le monde regardait, vraiment les choses à voir.
Autrement, c'est le grand festival pop de Woodstock, 1969. Le Tour de France est gagné, il le sera d'autres fois, par le coureur belge Eddy Merckx.
Ah, lui, je connais.
Ouais. Jackie Stewart devient champion du monde de Formule 1. En littérature, Charrière, qui écrit un roman à succès, Papillon, qui fait référence à la période du bagne en Guyane. Et le prix Nobel de littérature est remis à Samuel Beckett.
Ah oui.
Voilà.
Mm-hmm. Il était irlandais, non ?
Je crois.
Oui, je dois
vérifier. I'm afraid so.
Oui, je dois vérifier aussi.
Des films emblématiques. Mon oncle Benjamin avec Brel de Bernard Blier. C'est La sirène du Mississippi avec Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve. Et puis ce sont deux films phares en France que l'on revoit souvent. C'est Hibernatus avec De Funès et Claude Jansac. Et Le cerveau avec Bourvil et Belmondo. Plus sérieux, entre guillemets, L'armée des ombres sur une histoire de la résistance avec Lino Ventura, Simone Signoret, et Les chemins de Katmandou avec Gainsbourg et Jane Birkin. Chanson emblématique, Johnny Hallyday, Que je t'aime, ou...
a fait ça en 69.
Oui, ou Moustaki, le métèque. Alors, quelques naissances. Au bout de 50 ans, ce sont peut-être des sportifs qui restent en mémoire. C'est Cédric Pioline. C'est dans la boxe Tiozzo. Dans le judo, David Douillet. Dans un tout autre domaine, c'est M.C. Solar. Dans les disparitions, c'est le réalisateur Henri Decoing. L'actrice Judy Garland. Le constructeur automobile... qui n'est plus connu de nos jours, mais qui a été célèbre pendant plus d'un demi-siècle, Panhard. Je me rappelle, en 60, mon père avait acheté une Panhard. Autrement, c'est la mort d'Ibn Seoud qui a créé l'Arabie Saoudite. La mort d'Eisenhower, l'ancien président des États-Unis et qui avant avait été le... général en chef des armées alliées qui ont libéré l'Europe. C'est la mort d'Ho Chi Minh, le leader de l'indépendance du Vietnam, du grand peintre allemand Otto Dix, du grand architecte allemand du Bauhaus, Walter Gropius, et du boxeur Rocky Marciano.
Oh, Rocky.
Voilà. Un petit panorama, un demi-siècle après, qu'est-ce qui peut rester dans les mémoires ? Alors, comme symbole, j'ai choisi une très très belle chanson, très poétique, chantée par quelqu'un qui était jeune à l'époque, évidemment, Serge Lama, Une île. C'est vraiment très beau.
On va écouter tout de suite.
Une île. Entre le ciel et l'eau, une île insomnie, bateau, inculte, un peu comme une insulte, sauvage, sans espoir de voyage, une île entre le ciel et l'eau. Ce serait-là, face à la mer, immense là, sans espoir d'espérance, tout seul, face à ma destinée, plus seul qu'au cœur d'une forêt. Ce serait-là, dans ma propre défaite, tout seul, sans espoir de conquête, que je saurai enfin pourquoi je t'ai quitté, moi. Que toi, une île, comme une cible d'or, tranquille, comme un enfant qui dort, fidèle à en mourir pour elle. Force d'être rebelle, une île, comme un enfant qui dort. Ce serait-là, face à la mer immense, là, pour venger mes vengeances tout seul. Avec mes souvenirs, plus seul qu'au moment de mourir. Ce serait-là, au cœur de Sainte-Hélène, sans joie, sans amour, mais sans haine, que je saurais enfin pourquoi je t'ai quitté, moi, qui n'aime que toi. Entre le ciel et l'eau, une île sans avenir, bateau, inculte, un peu comme une insulte, sauvage, sans espoir de voyage.
Et voilà, c'était Serge Lama, une île. Bon, merci beaucoup, Jean. Vous allez repartir, non, dans le
sud? Ah oui, là, je descends parce que j'ai, bien qu'à la retraite, j'ai beaucoup d'activités. J'ai 7 activités permanentes à Saint-Raphaël et autour qui me prennent beaucoup de temps, mais c'est avec plaisir, je le veux bien. Donc, quand je suis à Briançon, ce sont des vacances. Bienvenue.
Je suis désolée que le temps n'était pas tout à fait là.
Oh bah c'est normal, hein. L'an dernier, il faisait pas très très beau non plus. Et puis là, c'est le dégel.
April showers, tout comme on à dit fait. En anglais.
Ah bon?
Ouais, il pleut toujours en avril. Hein.
Oui, oui. Ouais. Mais c'est important, là, que ce soit pour la végétation, que ce soit pour les nappes phréatiques, pour la nature. C'est important pour la suite.
Donc, vous allez revenir nous voir en
juin.
Ah,
j'espère bien.
Vous avez choisi des sujets pour juin.
Le fait qu'il y ait les élections au Parlement européen, je me suis dit qu'on pouvait peut-être présenter quelques hymnes nationaux, puisqu'au fond, chaque pays garde une partie de son destin en main. Donc, chaque pays est représenté, pas seulement dans le sport, est représenté par son hymne national. Donc, elle est un petit peu l'histoire, la particularité musicale, de l'hymne britannique, belge, allemand.
On va voir si on est toujours italien. Ou pas.
Ah, bah, ça, pour le Royaume-Uni, il est évident que si le Royaume-Uni y est encore, il doit élire des représentants.
Les dates officielles maintenant pour sortir, c'est le 31 octobre, Halloween.
Oui, j'avais pas pensé.
Je crois que c'était fait exprès et c'est super rigolote. Mais on peut sortir avant. Mais quand ils n'ont toujours pas décidé depuis 3 ans ce qu'ils veulent.
J'ai même entendu dire que ça pouvait être 2020, 2021 ou.
Vous allez présenter quelque chose sur les élections et aussi sur
la nature. Non, pas spécialement sur les élections, sur la particularité culturelle, historique et culturelle et musicale de ces hymnes. Et puis, parler un petit peu de la nature qui nous entoure l'été à Briançon, avec quelques questions simples, mais pour lesquelles les réponses sont souvent des surprises, peut-être agréables, sinon originales.
Bon, merci, et rentrez bien, et revenez nous voir très vite.
Avec grand plaisir.